Cet été, il s'est passé un truc qui a littéralement changé ma vie. Alors vous attendez pas à une histoire pleine de rebondissements, là on va parler de mon ventre, et en l'occurrence de mon SII, syndrome de l'intestin irritable. Il a été diagnostiqué pour la première fois au mois de juillet, après 10 années d'errance médicale, et j'ai enfin un traitement adapté. Et ça les gars, ça change la vie. L'idée c'est pas de vous parler du SII, je vous invite à taper sur Google, il y a vraiment plus sexy comme maladie, en gros c'est des maux de ventre, mais plus de vous partager ces 10 années d'errance médicale, mon expérience et ce que j'ai pu en tirer pour vous éviter peut-être à vous aussi de faire face à cette errance médicale et pouvoir mettre en place plus rapidement de bonnes pratiques pour remédier ou réduire au possible votre douleur. Parce que oui, par maladie, je vais parler pas mal de douleur. Je trouve que ça englobe aussi bien des maux physiques que mentaux. Et en vrai, je pense que les démarches sont assez similaires. Mais revenons-en au début, la genèse des maux de ventre de Clo-Clo. Quand j'étais petite, j'avais mal au ventre. J'ai le souvenir de moi pliée en deux dans le canapé les mercredis après-midi et juste de cette douleur, de crampe, c'était vraiment pas très agréable, mais c'était pas handicapant au quotidien. Et puis à 18 ans, je suis partie vivre seule, j'ai commencé mes études en classe préparatoire et là, ça s'est aggravé. J'ai commencé à avoir vraiment très mal au point d'appeler les urgences plusieurs fois, je faisais des malaises, je perdais du poids, j'arrivais plus à manger, j'avais tout le temps mal au ventre, vraiment c'était invivable. Donc, réflexe, j'en parle à ma mère qui m'emmène voir une gastro-entérologue. Ça, c'est un premier bon réflexe qui est de ne surtout pas banaliser ou sous-estimer votre douleur. Vous avez le droit d'avoir mal en fait, et c'est pas parce que vous avez mal que, de temps en temps, que c'est normal. Encore une fois, un corps qui fonctionne bien n'a pas à avoir mal, et je trouve que quand on a mal, dans la souffrance en tout cas, en termes d'évaluation de la douleur, on a tendance à sous-évaluer quand on a l'habitude d'avoir mal. Puisqu'on se dit « Ah non, mais j'ai déjà connu pire, donc là, ça va. » Sauf que le « là, ça va », chez quelqu'un qui a jamais eu mal comme ça de sa vie, il va le placer à une douleur de 8 sur 10, alors que vous allez le mettre à 4-5. Bref, ne sous-estimez pas votre douleur. Si jamais vous avez un problème, que vous constatez que votre corps ne fonctionne pas comme avant, et qu'il y a vraiment un truc handicapant au quotidien, là c'était mon cas, consultez. Et dans mon cas, j'ai commencé par consulter donc une spécialiste, parce que c'était quand même très ciblé sur mon ventre et que, ben, autant aller voir des spécialistes tout de suite plutôt que de passer par la case généraliste qui peut ne pas être d'une grande aide. On m'a fait passer des examens à l'hôpital pour me dire qu'il n'y avait rien de physique et on m'a donné le diagnostic suivant. Vous êtes stressé, mettez-vous au yoga. Je venais de perdre du poids, j'avais mal en permanence, je faisais des malaises, je tombais dans les pommes dès que j'avais mangé, ça n'allait vraiment vraiment pas et on me dit mets-toi au yoga. Alors autant vous dire que ce diagnostic ne m'a pas du tout plu, je me suis sentie coupable de ma situation, comme si c'était ma faute, alors que pas du tout, et je trouve qu'on a tendance à tout mettre sous coup du stress, alors que certes c'est un facteur aggravant, certes dans certains cas c'est la cause principale du mal que vous pouvez avoir, mais n'oubliez pas que vous connaissez aussi votre corps quand il est en bonne santé, vous connaissez votre corps quand il est stressé, vous êtes la personne la mieux placée pour parler de votre corps quand il va bien. Si vous constatez que ce n'est pas normal, c'est au médecin aussi de vous écouter. Le fait est que quand je stresse, oui j'ai mal au ventre, mais ce n'était pas du tout le même type de douleur que celle-là que j'expérimentais depuis plusieurs mois. Ça n'avait même rien à voir. Le comportement de cette médecin, de ne pas avoir cherché d'autres pistes, de ne pas avoir cherché à m'écouter, de ne pas avoir creusé un peu plus, encore aujourd'hui, je ne le trouve pas du tout professionnel. Je pense que si jamais vous faites face à ça, n'oubliez pas qu'ils n'ont qu'une blouse, les médecins, c'est pas des intouchables, et ils peuvent aussi se tromper dans un diagnostic, ou alors ne pas forcément bien le développer, manquer de tact, etc., et il ne faut pas en rester là. À l'époque, j'avais seulement 18 ans, donc j'ai pas été chercher plus loin tout de suite, j'étais juste très en colère et je ne me suis pas mise au yoga, j'ai continué à souffrir en silence, mais mon conseil à ce stade, ce serait de vous dire n'hésitez surtout pas à consulter d'autres médecins pour avoir d'autres points de vue. Quitte à ce que les diagnostics se recroisent, et dans ce cas, vous savez que c'est le bon. Mais si jamais vous avez l'impression de ne pas avoir été entendu et que le diagnostic vous semble bizarre ou ne vous parle pas ou ne vous suffit pas en termes d'explication, soit vous posez la question à votre médecin, soit filer voir un autre médecin pour juste recouper leurs propos et leur analyse. Et moi j'ai attendu un moment avant de faire ça, mais on va y revenir un petit peu après. J'ai continué à avoir mal au ventre, à être pliée en deux, à prendre du Suasson, du Doliprane, à tenter un peu d'automédication aussi par moment, ce que je ne recommande pas, ce n'est pas à faire, mais j'avais tellement mal que je cherchais des solutions là où je pouvais. J'ai commencé aussi à juste rentrer mes symptômes sur internet et à lire des choses sur le SII justement, mais sans en savoir plus. Et puis je me suis retrouvée à aller voir une médecin généraliste pour une attestation de sport. Me demandez pas pourquoi, parce que je ne fais pas de sport, donc je n'ai plus le souvenir de quel était le motif pour avoir cette attestation, mais j'ai parlé de mes maux de ventre à la médecin. Et elle m'a écoutée, m'a dit « bah peut-être que vous devriez arrêter le gluten pour voir, parce que ça m'a quand même l'air d'être une intolérance au gluten, votre truc. » Moi, le gluten, à l'époque, je savais absolument pas ce que c'était. Et j'ai retiré, en l'occurrence le gluten, donc une molécule qui se trouve principalement dans le blé, de mon alimentation pendant une semaine, pour voir. Franchement, j'étais plus à ça près, j'étais prête à tout tester. Et en moins d'une semaine, la moitié de mes symptômes s'est envolée. Ça a été le jour et la nuit. Donc je suis passée du côté des bobos qui ne mangent pas de gluten, voilà. Sachez que ça aussi c'est important d'en parler autour de vous. Quand vous trouvez une solution qui vous convient, qui vous soulage, il n'y a pas de jugement à avoir sur cette solution. Le fait est que ne pas manger de gluten, beaucoup de gens au début ont trouvé ça chiant dans mon entourage, n'ont pas trop compris, parce qu'il fallait s'adapter. Mais le fait est que si je devais choisir un autre souci de santé, je pense que je n'aurais pas pris un truc lié à l'alimentation. Pour être tout à fait honnête, ça me manque la brioche. Si jamais vous êtes dans ce cas de figure, que vous avez trouvé quelque chose, un remède qui, lui, fonctionne et vous fait du bien, parlez-en autour de vous, faites un peu de pédagogie, je peux comprendre que ce soit fatigant et agaçant, mais c'est aussi important de faire comprendre aux autres que vous étiez dans une situation de souffrance. Et on en vient à un autre point qui est de lever le tabou sur le mal que vous pouvez avoir, de, encore une fois, exprimer votre douleur, dire que quand vous avez mal, d'expliquer et de dire autour de vous ce qui vous arrive, même si vous n'avez pas encore de diagnostic précis posé dessus, de pouvoir en parler pour être beaucoup moins seul et être épaulé et accompagné. Moi, au travail, les gens savent que j'ai des problèmes digestifs, mes proches, ma famille, même mes relations, j'en ai toujours parlé et je vais continuer à le faire parce qu'il n'y a pas de tabou et que, encore une fois, si c'était quelque chose qu'on choisissait, ce serait déjà un autre sujet. Là, c'est subi, c'est déjà de la douleur. Je vais pas en plus me taper la charge mentale de devoir gérer potentiellement un tabou ou en tout cas une gêne vis-à-vis des autres. Si ça les gêne, et encore une fois, personne ne vous demande de rentrer dans les détails, hein. Vous dites juste, là, ça, bah, sachez que ça va pas et que potentiellement, si jamais ça arrive, si jamais... Imaginons que vous avez vous aussi une intolérance alimentaire et que vous faites ce que moi j'appelle des crises, c'est les moments où vous avez vraiment très très mal, vous êtes obligé de rentrer chez vous, il faut prévenir. Et si jamais vous avez peur de ne pas être écouté, là pour le coup n'hésitez pas à aller voir je pense un médecin généraliste pour demander une attestation expliquant que vous avez mal, même si le médecin ne sait pas d'où ça vient. Ça peut être très handicapant et c'est important de juste le formaliser et l'officialiser aussi. Ça participe, je trouve, d'une certaine façon à légitimer votre situation et à atténuer également une partie de la douleur si jamais il y a une dimension psychologique, ce qui est quand même très souvent le cas, que ça vienne s'ajouter ou non à la maladie d'origine. Bref, à partir du moment où j'ai retiré le gluten de mon alimentation, j'ai cru que tout allait être réglé et en fait les symptômes sont revenus petit à petit de plus belle, au point de m'handicaper vraiment au quotidien. Je pouvais plus sortir sans avoir mal, à tel point que j'ai refini aux urgences à l'hôpital 2 fois de suite en quelques mois. Et ça m'a vraiment inquiétée parce qu'on ne trouvait toujours rien. Donc j'ai repris rendez-vous avec une nouvelle gastro-entérologue qui m'a refait passer les mêmes examens que la première fois, quelques années plus tôt, mais qui a été déjà beaucoup plus à l'écoute, qui a aussi exploré un peu plus de pistes et qui a fini par m'écouter quand je lui ai parlé du SII et qui m'a dit « Ah bah oui, ça doit être ça. » Fin du diagnostic. « Ah bah oui, ça doit être ça. » J'avoue que j'étais assez déçue parce que je misais beaucoup sur elle et je n'ai pas été la voir de nouveau puisque finalement, son diagnostic, c'était juste « Oui, ça doit être ça. » Et elle ne m'apportait pas de solution. Et de mes lectures, c'est vrai que c'était pas une maladie qui se soignait, qui était multifactorielle pour le coup, donc... Il y avait un peu de stress, il y avait un peu de conditions physiques, il y avait un peu d'alimentation, il y avait un peu de tout. Mais je pensais que bah, du coup j'étais condamnée à vivre avec. Spoiler, j'en ai vraiment marre d'avoir mal, donc je me suis tournée vers une nutritionniste. Après tout, le SII, ça touche le ventre, donc pourquoi ne pas aller voir un autre type de spécialiste ? Ça peut aussi être une solution. Et puis au même moment, on m'a conseillé d'aller voir des médecins, mais de médecine non traditionnelle. Alors pour le coup, c'est vraiment propre à chacun. Moi, je pense que c'est un bon complément à de la médecine traditionnelle. Ça dépend totalement de votre pratique, mais ça va traiter d'autres aspects de potentiellement votre mal-être. Pouvoir faire de l'acupuncture ou de l'hypnose, oui, ça peut vraiment, vraiment aider. Et ça, j'y crois. Bref, j'ai été voir une nutritionniste qui m'a suivie pendant un mois. Pendant un mois, elle a analysé, en fait, mon rythme de vie pour essayer de déceler des schémas répétitifs, de savoir quand est-ce que les crises apparaissaient, est-ce qu'il y avait des liens entre elles. Le fait est qu'elle m'a dit aussi avec beaucoup de transparence que mon cas était compliqué. Et elle m'a réorientée vers une gastro-entérologue, la gastro-entérologue numéro 2 de cette histoire. Et oui, en me disant, elle est vraiment très bien, allez-y les yeux fermés. Le fait est que cette nutritionniste avait créé un vrai climat de confiance. Je me sentais bien avec elle et du coup, je l'ai écoutée. Et ça, c'est un autre point dans l'errance médicale. Je pense qu'on peut avoir tendance à fermer des portes et à être découragé et à dire stop. Et moi-même, au début de ce podcast, je vous disais, changez de médecin si ça ne va pas. Oui, c'est vrai. Et en même temps, si jamais on vous dit retentez votre chance avec un tel ou une telle parce que c'est vraiment un bon spécialiste et peut-être que c'était juste sur cette fois-ci ou maintenant que vous y allez avec de nouveaux éléments, il va pouvoir vous aider, faites-le. On a la chance d'avoir la sécurité sociale en France et ça, c'est non négligeable. Donc n'hésitez pas à, voilà, tenter. Moi, c'est vraiment un truc que j'ai finalement appris de ces 10 années d'errance, c'est que c'est très dur mentalement et physiquement du coup de devoir s'accrocher et chercher alors qu'on a mal, mais en même temps on a énormément de chance et c'est bien de pouvoir finalement étudier chaque piste, une à une, les exclure, mais au moins avoir creusé et être sûr de vous et être force de proposition auprès de votre médecin sans pour autant être présomptueux en pensant avoir fait médecine à sa place. Là, je suis retournée voir donc cette gastro-entérologue et je suis tombée sur sa remplaçante. Sa remplaçante est une personne merveilleuse qui est la médecin qui a sauvé mon été et qui sauve ce mois de septembre qui en découle, puisqu'elle m'a écoutée, elle m'a confirmé que j'avais bien un SI, c'était même pour elle évident par rapport à tout ce que je lui ai raconté. Elle m'a tout de suite dit que effectivement les causes c'était très compliqué de les soigner et qu'il y avait quand même beaucoup de facteurs, elle m'a donné des pistes pour travailler sur certains facteurs que je peux gérer, notamment, on en revient au diagnostic numéro 1, mais le stress, et cette fois-ci elle ne m'a pas dit de faire de yoga, elle m'a dit de effectivement trouver des moyens d'évacuer un stress mental et un stress physique, que ça pouvait aussi potentiellement passer par changer de cadre de vie, et ça j'y songe très sérieusement. Elle m'a aussi confortée dans le fait que j'avais une intolérance au gluten, donc il ne fallait pas que je m'amuse à en remanger, que j'avais très bien identifié d'autres intolérances alimentaires, il n'y en a pas tant que ça, mais elles sont quand même très nettes chez moi, et que du coup, maintenant que je le savais, ça ne servait à rien de vouloir passer des tests, des analyses de sang ou autre. En fait, je le sais, j'évite les aliments, point. Et oui, c'est un peu chiant au quotidien, mais en fait, on prend vite l'habitude, et encore une fois, en parlant à son entourage, on se crée des alliés. Et elle m'a donné un traitement pour soigner les symptômes en l'occurrence. Son but, c'est pas de tout effacer, parce que c'est pas possible, c'est pas de me gaver de médicaments au quotidien, c'est de me donner une béquille à mon corps, qui me permet de beaucoup mieux gérer, et d'avoir bien bien moins de symptômes, et d'éviter au maximum les crises, et si jamais j'en ai, de pouvoir les soulager très rapidement. Et ça, c'est vraiment fou. J'ai vu la différence juste encore une fois en une semaine. À chaque fois, ça se joue en très peu de temps, mais c'était assez incroyable. Et en fait, je revis dans le sens où je peux me redéplacer dans l'espace public sans aucun problème. J'ai beaucoup moins d'appréhension aussi à l'idée de manger parce que ça me générait du stress de me dire je vais avoir mal parce que j'ai créé un terrain fertile à la douleur. Et en fait, c'est pas sain non plus. Là, en l'occurrence, j'ai un traitement en continu que je vais prendre, je sais pas combien de temps. En vrai, ça peut être un an, ça peut être 10, ça peut être 2 mois, je sais pas. Bien sûr que ça me ferait plaisir de ne pas avoir prendre de médicaments au quotidien, mais le fait est que ça me soulage, ça aide à réguler mon corps. C'est, je pense, encore une fois, une béquille, et il faut pas diaboliser aussi ça. Et je reste quand même arbitre de ce que je prends. Ça fait plaisir à personne, encore une fois, de prendre des trucs chimiques dans son corps, en plus de déjà tout ce qu'on ingère tous les jours. Mais si ça peut vous faire du bien, n'excluez pas ces pistes. Ma médecin m'a aussi beaucoup rassurée. En me disant qu'elle voyait bien que j'étais un peu désespérée et que j'avais tout essayé, mais que je n'avais rien à me reprocher en tant que patiente. J'avais mal et j'avais cherché des solutions. Et ça, c'est aussi un message que j'ai envie de vous partager. Si jamais vous insistez, si jamais vous cherchez des solutions, si jamais vous tâtonnez, vous voyez plein de pistes différentes, que vous faites appel à différents médecins, que vous en parlez à vos proches, que vous vous accrochez, mais vous êtes des héros et des héroïnes, vraiment, c'est un travail monstre et c'est pas votre faute. Même si derrière on vous dit bah c'est génétique ou c'est du stress, donc du coup finalement c'est une petite partie de vous, ce n'est pas de votre faute, de votre responsabilité. Vous subissez cette situation qui est potentiellement créée par votre propre corps ou par votre propre mental, ok, et on peut pas se dissocier non plus, c'est pas le but, mais en fait, ce que vous faites, c'est génial d'aller creuser, d'aller chercher, de trouver une solution. C'est un travail de fond, c'est un travail de recherche, en plus de recherche dont vous êtes le cobaye finalement. C'est pas évident du tout, c'est pas à la portée de tout le monde. Je pense que beaucoup de gens préfèrent pas avoir mal au ventre toute leur vie plutôt que d'essayer de trouver des solutions. Et ça, je l'ai vu un petit peu dans ma famille, puisque mon syndrome existe chez d'autres membres de ma famille qui ne se sont jamais fait diagnostiquer, qui n'ont même pas pensé à dire au médecin qu'ils avaient mal au ventre. Visiblement, ils le vivent très bien comme ça et tant mieux pour eux. Moi, j'avais pas envie de souffrir gratuitement et je pense que si vous aussi vous êtes dans cette démarche, ben bravo à vous. On arrive à la fin de ces 10 années d'errance médicale et de ce podcast. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Si vous l'avez aimé, vous pouvez vous abonner au Clo-Clo Club, me laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts et sur Spotify. Et puis moi, je vous retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. Bye!